Bonjour Toufik, bonjour à tous. La moitié des migrants sauvés par l'Aquarius il y a 10 jours veulent demander un droit d'asile en France. C'est ce qu'indique le gouvernement espagnol. Quel accompagnement de la France? Alors, question posée dans ce journal. Nous nous pencherons ensuite sur la rencontre à venir aujourd'hui entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. Rencontre sur fond de crise migratoire dans l'Union européenne et de réforme de la zone euro. Et puis, vaste projet de loi qui sera voté aujourd'hui par les députés sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Au menu notamment les indemnités chômage pour les démissionnaires. Et vous l'entendrez, la promesse d'Emmanuel Macron s'est largement étiolée. Pedro Sanchez se rendra en France pour sa première visite d'État. Le nouveau président du gouvernement espagnol sera à Paris samedi. Il va y rencontrer Emmanuel Macron. Selon l'Élysée, Pedro Sanchez et le président français doivent évoquer les questions d'immigration ainsi que les réformes de la zone euro. Un déplacement à Paris qui arrivera une semaine après la polémique sur la prise en charge de l'Aquarius. Le navire humanitaire est arrivé à Valence dimanche et la moitié des 630 migrants sauvés souhaiterait demander l'asile en France. L'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, va de toute façon envoyer une équipe sur place. Les explications de Clarence Rodriguez.
Au nom de la solidarité, mais aussi après plusieurs jours de polémique, la France propose d'accueillir sur son territoire les migrants qui le souhaitent. La moitié d'entre eux ont d'ores et déjà exprimé le vœu de demander l'asile en France. De son côté, l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est prête à envoyer une de ses équipes à Valence dans les tout prochains jours. Les autorités espagnoles, quant à elles, assurent depuis dimanche dernier une première prise en charge des 630 rescapés. Les réconforter, les nourrir, les soigner avant de procéder à un point sur leur situation administrative. Plus de 2000 personnes ont été mobilisées pour ces tâches. Dès que nous aurons une idée plus précise de leurs souhaits en matière d'asile, nous viendrons, assure Pascal Brice, directeur général de l'OFPRA. Une fois sur place, l'équipe mènera des entretiens et s'assurera que les personnes intéressées relèvent bien du droit d'asile. Quoi qu'il en soit, c'est le gouvernement français qui statuera sur le nombre de réfugiés accueillis en France. Cela signifie que tous les demandeurs d'asile ne seront pas forcément acceptés et selon l'organisation Médecins sans frontières, co-affréteur de l'Aquarius, les migrants se sont vus remettre 3 formulaires au choix à remplir. Un pour demander un permis d'entrée extraordinaire de 45 jours sur le territoire ibérique pour raison humanitaire. Un pour demander l'asile en Espagne et un autre pour le demander en France. Rappelons que le refus de l'Italie et de son ministre de l'Intérieur Matteo Salvini d'accueillir l'Aquarius a plongé l'Europe la semaine dernière dans une nouvelle crise sur ce dossier brûlant.
Matteo Salvini qui ne s'arrête pas là, il a annoncé hier soir un recensement des Roms vivant en Italie pour éventuellement expulser ceux de nationalité étrangère et, dit-il, malheureusement garder les Italiens, tollés déjà chez de nombreuses associations. Et Clarence Rodriguez l'évoquait à l'instant, la crise européenne autour des questions de migration, cette crise donc est relancée. Hier, l'Allemande Angela Merkel rencontrait l'Italien Giuseppe Conte, lui promettant de l'aider pour faire face aux flux migratoires, sans plus de précision. Aujourd'hui, elle sera aux côtés d'Emmanuel Macron, conseil des ministres franco-allemand, dans un château au nord de Berlin. Accord sur la crise migratoire contre réforme de la zone euro, ce pourrait être une partie du marché conclu aujourd'hui, car Angela Merkel est pressée par la droite de son alliance en Allemagne. La CSU bavaroise lui donne 2 semaines pour régler la question migratoire. En cela, Emmanuel Macron pourrait avoir une carte à jouer pour réformer l'Europe, c'est ce qu'estime en tout cas le géographe et professeur à Sciences Po, Sylvain Kahn.
La présidence de la République française, elle a vraiment intérêt à ce que Mme Merkel sorte renforcée de toute cette affaire. Donc là, ils ont objectivement intérêt à s'allier pour se renforcer politiquement chacun chez eux, de manière à pouvoir faire passer ensemble des réformes. Donc du coup, Mme Merkel, parce qu'elle est affaiblie, enfin affaiblie, disons parce qu'elle est moins dans une position de pouvoir dans son propre pays, a besoin de la France, vous voyez. C'est comme ça que ça va se passer en fait. Donc du coup, elle va faire des compromis, et donc du coup, il va peut-être y avoir un accord entre la France et l'Allemagne beaucoup plus fort que ce qu'on imaginait il y a encore 3 mois, parce que ça renforcerait la chancelière sur le plan domestique, vis-à-vis de ses partenaires de la coalition, et que ça permettrait d'enfoncer un coin au sein du fameux axe des volontaires, ou de l'axe de la volonté, comme ils disent en anglais, sur la question migratoire. Vous voyez, donc c'est un jeu de billard à 4 bandes, en fait.
Le géographe Sylvain Kahn au micro de Tiphaine Honoré. L'intersyndicale d'Air France suspend finalement son préavis de grève prévu du 23 au 26 juin prochain. Elle indique vouloir attendre la nomination d'un nouveau président à la tête de la compagnie aérienne. Seuls les pilotes du SPAF maintiennent leur appel à la grève. Du côté de la SNCF, l'intersyndicale là n'a pas encore pris de décision. Elle se réunit en fin d'après-midi tout à l'heure pour évoquer l'éventuelle suite à donner au mouvement pendant les vacances d'été. La CFDT et l'UNSA, plutôt réformistes, réunissent avant cela leurs instances nationales. La CGT, qui proposait des actions les 2, 6 et 7 juillet, indique, elle, qu'elle peut modifier cette proposition. La loi Pénicaud 2 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est en passe d'être votée à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Au fil des 66 articles, des 2200 amendements, ce texte vise à réformer trois grands volets, la formation, l'apprentissage et l'assurance chômage. Il y est notamment question d'indemniser les démissionnaires. Un serpent de mer, Maïwenn Bordron.
C'était l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron, une assurance chômage universelle. La mesure avait été concédée en échange d'un contrôle renforcé des chômeurs. Après plusieurs mois de débats, il ne reste finalement plus grand-chose de la proposition initiale. Exit, l'universalité totale, place à l'indemnisation sous condition. Pour toucher des allocations chômage, le salarié démissionnaire devra présenter un projet de reconversion ou de création ou reprise d'entreprise. Autre condition, avoir travaillé sans interruption au cours des 5 années précédant la démission. Aujourd'hui, 70 000 démissions donnent déjà lieu tous les ans à une indemnisation chômage. C'est le cas par exemple d'un salarié qui suit un conjoint muté ou d'un parent qui doit accompagner un enfant handicapé placé dans une structure d'accueil éloignée de son lieu de résidence. Avec cette nouvelle loi, la couverture chômage devrait être élargie à 20 000 voire 30 000 démissionnaires. Dérisoire pour le député socialiste Boris Vallaud. La gauche, dans l'ensemble, dénonce une promesse, je cite, piétinée du candidat Macron. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, justifie de son côté les limites du texte. Il ne faut pas, selon elle, pousser les gens à démissionner, mais accompagner ceux qui ont un projet.
Et après le vote à l'Assemblée aujourd'hui, le projet de loi devra être examiné par le Sénat à partir du 9 juillet prochain. L'escalade encore dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Nouvelle étape, nouvelle menace cette nuit. Donald Trump annonce qu'il souhaite imposer un nouveau droit de douane à hauteur de 10% sur 200 milliards de dollars de produits chinois. Pékin dénonce le chantage du président américain et évoque d'autres représailles. La Chine qui accueille aujourd'hui et demain le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Une visite de 2 jours, une semaine après sa rencontre historique avec Donald Trump. Aucun détail sur le programme n'a encore été fourni. En moins de 3 mois, c'est la 3e fois que Kim Jong-un se rend en Chine. L'émissaire de l'ONU pour le Yémen dit espérer la reprise de négociations de paix le mois prochain, en juillet, alors que des milliers de personnes continuent de fuir les combats dans la ville portuaire de Hodeïda. Hodeïda, assiégée par la coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite qui soutient les forces pro-gouvernementales. Hodeïda, au bord d'une crise humanitaire importante. La France, officiellement, a choisi le camp de la coalition face aux rebelles houthis. Le mois dernier, 5 parlementaires français s'étaient d'ailleurs rendus dans le pays. Parmi eux, le sénateur La République En Marche, Michel Amiel. Et les lignes, dit-il, sont plus floues que cela.
De ce que j'ai pu constater, entendre et l'idée que je m'en fais, c'est qu'on ne peut pas être manichéen. Qu'il y ait d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants. On a vraiment l'impression que c'est une situation extrêmement compliqué. Bien fort est celui qui peut dire vers quoi on tend. En particulier, est-ce qu'on va retourner vers une partition du Yémen entre d'un côté le nord et l'ouest qui resterait sous contrôle houthi et le sud qui resterait sous un contrôle qui aujourd'hui est à déterminer parce que d'après les informations que nous avons, le sud aujourd'hui est soumis à la fois à les forces gouvernementales officielles légitimes, d'un autre côté des groupes et des groupuscules terroristes, il faut appeler les choses par leur nom, je pense à Daesh, je pense à Al-Qaïda, sans parler d'un véritable système tribal qui est le mode de fonctionnement, je dirais, ancestrale du Yémen.
Y a-t-il un tournant dans le conflit au Yémen? La question sera posée dans moins de 5 minutes par Xavier Martinet dans ses enjeux internationaux. Ce mardi s'annonce globalement ensoleillé avec des températures en hausse selon Météo France. Près des Pyrénées, sur les régions bordant la Manche et la Belgique, le ciel sera couvert ce matin avec les éclaircies dans l'après-midi. Et il fera donc plus chaud qu'hier. Dès ce matin, comptez 17 degrés à Brest et Lille, 18 sur la région parisienne, 22 à Bordeaux, Périgueux, Besançon, 28 dès ce matin à Marseille. Et cet après-midi, comptez 22 à 24 au nord de la Loire, 25 à 29 sur le sud.